Daguet présente le journal des Amériques et d'Haïti. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Une édition spéciale aujourd'hui consacrée à cette folle nuit d'élections américaines aux États-Unis. Pour le moment, rien n'est joué. Des résultats qui ne sont pas encore tous tombés, notamment dans un certain nombre d'États clés. Mais un président américain qui se dit déjà vainqueur et qui parle de fraude. On va analyser tout cela avec notre invité qui nous fait la gentillesse de nous accompagner, Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire spécialiste des États-Unis. On sera aussi avec Christophe Paget qui est avec nous en studio pour feuilleter la presse américaine en ce lendemain d'élection. On entendra les reportages de nos envoyés spéciaux en Floride et au Texas, et puis le journal des Outre-mer que l'on retrouvera comme tous les jours à la fin de cette édition.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Voilà, Donald Trump hier soir lors de sa prise de parole, il dénonce une fraude sans donner beaucoup plus de précision et il prévoit dans le même discours de saisir la Cour suprême. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Professeur agrégé d'histoire spécialiste des États-Unis. Alors c'est là le pire scénario qu'on aurait pu imaginer, une bataille assez serrée puisqu'au dernier décompte, il y aurait 238 grands électeurs pour Joe Biden, 213 pour Donald Trump et des États clés dont on ne connaît pas encore le résultat, Corentin.
Oui, tout à fait. En fait, on retrouve en particulier les trois mêmes États qui avaient fait de Donald Trump le président des États-Unis, c'est-à-dire la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, hein, ces États des Grands Lacs, qui se caractérisent en plus là en 2020 par leur usage du vote par correspondance à cause de la Covid, du vote par correspondance qui a été généralisé dans ces États et qui en particulier en Pennsylvanie et au Wisconsin, où le comptage des bulletins par correspondance n'a commencé qu'hier, jour du scrutin, explique le délai de dépouillement et explique ces résultats au compte-gouttes et évidemment accentue encore l'incertitude d'un scrutin par ailleurs déjà très serré.
Voilà, et on va revenir avec vous sur cette bataille juridique qui s'annonce aux États-Unis, mais tout d'abord je me tourne vers vous, Christophe Paget. Vous avez feuilleté les journaux américains consacrés évidemment à la présidentielle aux États-Unis.
Oui, le New York Times parle d'un suspense à se ronger les ongles qui pourrait durer des jours et des jours. Biden appelle à la patience alors que Trump menace d'aller devant la justice et se proclamateur vainqueur alors que le dépouillement continue, s'indigne le Houston Chronicle. Place aux avocats, soupire le Washington Post, qui estime que ce qui est plus important qu'un résultat qui nous convienne, c'est de compter tous les votes. Reprenant les propos du président qui assure que les démocrates essaient de voler l'élection, le journal explique que des centaines de milliers de votes valides sont encore en attente et les compter, ce n'est pas du vote, mais la démocratie. Bref, pour le moment, impossible de savoir qui est le gagnant, cela pourrait prendre des jours, analyse Politico, qui titre sur un pays une fois de plus dans l'expectative. Les démocrates savaient comment ils allaient gérer les partisans les plus dévoués de Donald Trump, les éventuels recours en justice sur le vote par correspondance ou la peur que les juges conservateurs aident les républicains en mobilisant leurs partisans pour un chaos rapide et décisif. Eh bien c'est raté, écrit Politico. Du coup, s'interroge le New York Times, Trump est-il l'aberration que Biden décrit? Quand il dit « Trump, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Amérique », est-ce que les électeurs sont d'accord? Pour des millions de supporters de Trump, les quatre dernières années ont été une période de changement pour le meilleur. Une période pendant laquelle ils ont eu l'impression d'avoir un président qui savait exactement qui ils étaient. Le Washington Post titre ainsi sur une nation divisée et poursuit cette course serrée et le grand nombre de personnes qui ont voté traduisent une division partisane sur les crises que traverse le pays. En fait, explique le New York Times, les sondages sortis des urnes montrent que c'est le coronavirus qui a influencé les électeurs. Mais ceux qui s'inquiétaient des infections en hausse ont voté pour Joe Biden, ceux qui votaient pour une économie ouverte pour le président Trump. Pour ces sujets qui ont influencé les électeurs, le Washington Post rajoute l'inégalité raciale et précise que les femmes ont davantage voté pour Joe Biden.
Restez avec nous Christophe Paget, Corentin Célin. Tout d'abord, concernant le vote, est-ce que cette élection, selon vous, qui s'annonce si serrée aux États-Unis, traduit effectivement cette Amérique divisée, polarisée dont on parle depuis plusieurs mois déjà.
Oui, on a abouti en fait au scénario, j'allais dire, le plus craint, c'est-à-dire celui d'une élection serrée, très disputée au collège électoral sur quelques États clés. et qui amène, on le voit déjà, hein, en moins de 24 heures, un regain de tension exceptionnel avec les accusations de tricherie du président Trump, sa déclaration de victoire anticipée alors que le décompte n'est pas arrêté des bulletins, et par ailleurs sa menace d'aller à la Cour suprême. Donc c'était le scénario le plus appréhendé, et effectivement, on voit deux blocs face à face avec cette particularité, cette double particularité, mais qui tient beaucoup, j'allais dire, à la psychologie collective et aux créations des horizons d'attente par les sondages. C'est-à-dire que d'un côté, on a des démocrates qui sont déçus, mais déçus par rapport à quoi ? Par rapport à des sondages qui ont donné des espérances peut-être un peu déraisonnables, par exemple au Texas, mais qui sont toujours en position de reprendre la Maison Blanche, hein, rien n'est fait. Et de l'autre, par contre, un camp trumpiste qu'on a senti galvanisé parce qu'il a su conserver justement déjà quelques places fortes, la Floride, l'Ohio, c'est-à-dire des États qui se sont ancrés dans le trumpisme. Une statistique qui est vraiment à mon avis très intéressante, c'est qu'en Ohio, la majorité des syndiqués a voté pour Donald Trump, 56%, et on voit donc qu'il y a vraiment un ancrage de l'électorat ouvrier, on serait presque tenter de dire prolétaire, blanc, en faveur de Donald Trump. Et ça, c'est vraiment effectivement quelque chose qui, quoi qu'il advienne du résultat global, cet ancrage du trumpisme est effectif. Et donc, on a un peu, voilà, on a deux blocs face à face, peut-être dans des états d'esprit différents, mais qui sont effectivement, qui s'affrontent désormais à l'occasion de cette élection plus que serrée.
Alors, on va parler justement de la Floride, cet État et ses 29 grands électeurs qui donnent normalement le ton de l'élection présidentielle. Floride remportée par Donald Trump, et c'est une surprise avec 300 000 voix d'avance, une marge plus importante qu'en 2016. Pourtant, les démocrates y ont cru, mais même Miami, ville historiquement démocrate, vient d'élire un maire républicain dans le camp des progressistes. C'est donc la désillusion. On écoute le reportage de Carlotta Morteo à Miami.
C'est vraiment écœurant, je perds espoir.
Les yeux rivés sur l'écran de télévision où défilent les résultats, David et ses amis désespèrent de voir grimper le vote populaire en faveur de Joe Biden, mais l'élection leur échapper à nouveau.
Si Trump gagne, je ne vais pas l'accepter. On doit faire face aux problèmes du collège électoral. Ceci n'est pas une démocratie, la volonté du peuple est bridée.
Beaucoup de trentenaires dans ce bar de Miami qui espéraient une vague bleue et un noyau de militants de la gauche plus progressiste qui ont fait campagne pour des candidats locaux. C'est le cas de Nathan Pemberton.
Comment les démocrates ont-ils dépensé leur argent ? Étaient-ils assez proches des associations communautaires ? Non, ils l'ont juste dépensé en publicité à la télévision. C'est ce qui est arrivé ici. Ils n'ont pas fait de porte-à-porte, pas d'envoi de courrier et surtout, ils n'ont pas parlé aux électeurs. L'argent a été mal dépensé.
Visiblement, l'un des atouts en Floride de Donald Trump a été une mobilisation hors du commun de la communauté cubano-américaine. Un verre à la main, Angel se réjouit.
Surtout pour l'économie. Ces dernières années ont vraiment été bonnes et je pense que ça va continuer. Les quatre premières, c'était pour s'entraîner. Les quatre à venir seront pour exercer vraiment le pouvoir présidentiel. Je suis sûr qu'il va gagner.
Carlotta Morteo, Miami, RFI.
Christophe Paget, comment les journaux américains réagissent ce matin à cette victoire de Donald Trump en Floride ?
Eh bien, comme le disait Carlotta Morteo dans son reportage, Donald Trump a passé 4 ans à travailler la communauté des exilés cubains de Miami, note Politico. Une communauté qui, selon le journal, avait commencé à pencher vers les démocrates pendant les campagnes présidentielles de Barack Obama et de Hillary Clinton, hein, qui en 2016 avait écrasé Trump dans le comté de Miami-Dade. Il fallait contrer cette tendance. El Nuevo Herald, le quotidien en langue espagnole de Floride, note que Donald Trump a cette fois dépensé des millions de dollars en annonces en espagnol à Miami et dans le centre de l'État, espérant ainsi gagner non seulement le vote des Américains d'origine cubaine, conservateurs, mais aussi des Colombiens, des Portoricains et des centaines de milliers d'électeurs d'origine latino-américaine. Le journal rappelle que ces 6 dernières élections, celui qui a gagné la Floride a remporté la présidentielle. Le Washington Post note quand même qu'au niveau national, c'est Joe Biden qui mène sur le vote latino.
Corentin Célin, le vote des minorités hispanophones, mais aussi africaines-américaines, c'était l'un des enjeux de cette élection. Comment on peut l'analyser aujourd'hui ?
Alors évidemment, il faut faire un tableau état par état, mais pour reprendre par exemple le reportage de Carlos Morteo, effectivement, dans le comté de Miami-Dade, c'est très impressionnant parce que normalement c'est un bastion démocrate avec des marges de victoire écrasantes à chaque fois, et cette fois-ci Biden l'a emporté, on va pas dire de justesse, mais avec une marge beaucoup plus restreinte et qui s'explique par une surmobilisation des républicains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, puisque dans ce comté, on a une population quasiment issue uniquement des minorités, hein, à hauteur de 88%, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'hispaniques et aussi quelques Africains-Américains se reconnaissent, s'identifient maintenant politiquement comme républicains, et ça c'est entièrement nouveau. C'est vraiment un effet du Trumpisme. On note aussi, si on regarde plus du côté de Biden, qu'effectivement, par exemple, dans le Michigan, un État qui est encore, si on en croit les sondages sortis des urnes, donc un État qui n'est pas encore déterminé, hein, sur le résultat, mais ce qui est intéressant, c'est que l'électorat, il comporte moins d'Africains américains qu'il y a 4 ans, donc ce qui dénote une participation visiblement qui n'a pas été excellente chez les Africains américains. On note cela aussi en Ohio, hein, là que Biden a perdu. La participation des Africains américains n'est pas à la hauteur de ce qu'est-ce qu'ont été les démocrates. Donc il n'y a pas eu cette mobilisation, d'une part, peut-être aussi forte qu'on attendait des minorités africaines-américaines, mais il est vrai que Biden a peut-être compensé en étant plus fort que Clinton sur l'électorat blanc populaire, sur l'électorat féminin blanc. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être que pour la première fois, il y a une dissociation entre une appartenance communautaire, ethnique revendiquée et qui signifierait un vote obligatoire et systématique. Et on voit peut-être que pour la première fois, il y a une dissociation entre l'appartenance communautaire et le vote politique. Et c'est ce que montre, par exemple, l'exemple de la Floride.
Corentin Célin, une question sur la gestion de la pandémie de coronavirus dont parlent aussi les journaux aujourd'hui. Les démocrates ont fait pas mal campagne sur cette gestion qu'ils jugent très mauvaise de la part du président américain. On dirait que c'est un argument qui n'a pas pris lors de cette élection.
Alors, on dira qu'il a pris, mais ce qui est très très étonnant quand on regarde les différents sondages sortis des urnes, donc sur les qualitatifs, sur les motifs de vote, c'est-à-dire qu'on retrouve nos deux pays qui ont des motifs de vote complètement différents, à tel point qu'on peut parfois se demander s'ils ont vécu dans le même pays pendant les 6 derniers mois. C'est-à-dire que les démocrates apparaissent dans les motifs de vote vraiment très marqués par la justice raciale, la lutte contre les inégalités raciales et par la gestion de la Covid-19, ce qui n'est absolument pas le cas des électeurs républicains qui, eux, d'État en État, apparaissent en priorité obsédés par la bonne gestion économique et par l'économie, d'où d'ailleurs la confiance qu'ils font à Donald Trump. Et c'est vraiment ça aussi un signe de la polarisation, c'est qu'on a l'impression de personnes qui ne vivent pas dans le même pays, qui ne vivent plus dans le même pays, qui n'y voient pas les mêmes choses et qui ne se les représentent pas de la même façon.
Christophe Paget, je me retourne vers vous à nouveau. Pour le moment, ce que l'on peut dire et ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre d'États clés n'a pas encore donné, le décompte des votes n'est pas encore complet dans ces États. Christophe, l'élection n'est pas encore jouée.
Oui, Politico note qu'aujourd'hui, c'est le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie qui concentrent toutes les abstentions. Le résultat dépendra sans doute une fois de plus de l'ancien mur bleu, la couleur des démocrates, des États que Donald Trump a coloré en rouge en 2016 pour la première fois depuis des décennies, écrit The Hill. Et le journal de rappeler que le président, qui s'est rendu dans les 3 États clés les dernières semaines de la campagne, fait bien mieux que ce que l'on attendait de lui dans nombre de ces États qu'il était obligé de remporter pour un second mandat. Tout cela, note le Houston Chronicle, a même surpris les parieurs. Sur le site de Paris en ligne, Joe Biden avait commencé la journée en position de favori hier de très loin. Mais dès que les votes ont commencé à être dépouillés, Donald Trump est remonté pour finalement prendre sa place. Qu'il gagne ou qu'il perde, une fois de plus, Trump laisse les élites abasourdies, résume le Washington Post. Le fait que les démocrates soient bien plus susceptibles de voter par anticipation lui a donné une ouverture pour jeter le doute sur ce vote. Mais ce n'était pas la peine, estime le journal, à cause de l'ampleur et de la ferveur des soutiens de Trump qui ont envahi les bureaux de vote le jour de l'élection. Le Washington Post prend l'exemple de l'Ohio qui semblait acquis à Joe Biden, mais le jour de l'élection, Trump est revenu dans la course en rugissant et a pris l'État. Cette participation, que ce soit par le vote par anticipation ou celui d'hier du 3 novembre, le Boston Globe l'a décrit comme un raz de marée pour la démocratie. Alors que nous avions toutes les raisons de nous détourner du vote, une pandémie, des accusations de fraude, des tentatives d'empêcher ce vote, nous, le peuple, nous avons répondu présent. quel que soit le vainqueur, c'est un rappel de qui contrôle la démocratie.
Corentin Sélin, comment on peut expliquer aujourd'hui que cette vague bleue que espéraient les démocrates n'a pas eu lieu? Est-ce que finalement la ferveur de Donald Trump aurait-elle eu raison du calme et du côté posé de Joe Biden?
Il est en tout cas déjà assuré, si on regarde les totalisations du vote populaire sur l'ensemble du pays, qu'il y a eu effectivement un bond de la participation, hein, qui reste à quantifier, mais qui sera vraiment historique, voire même séculaire. Mais sauf que, contrairement à ce que beaucoup de personnes escomptaient, cette participation, elle a augmenté aussi bien pour les démocrates, mais peut-être plus proportionnellement, pas pour les forces trumpistes. Et c'est ça la grande peut-être surprise, c'est que Donald Trump va finir lui aussi avec un total de voix sans doute inférieur évidemment à celui de Joe Biden à l'échelle nationale, mais bien supérieur à celui qu'il avait obtenu en 2016 dans tout le pays contre Hillary Clinton. Ça veut dire que Trump a trouvé des millions de nouveaux électeurs en 4 ans, ce qui évidemment étonne par rapport à un homme qui n'a cessé d'être présenté comme l'épouvantail universel. Et ce qui est frappant, c'est que même s'il perd, hein, parce que c'est une hypothèse évidemment tout à fait envisageable, il aura quand même réussi à augmenter le nombre de personnes croyant en sa solution politique. Et effectivement, il y a des questions à se poser sur son énergie, qu'on a vu en démonstration dans les dernières semaines de la campagne. Le contraste était saisissant entre cet homme parfois même trop énergique, et la campagne complètement en retrait, sans meeting ou presque, de Joe Biden.
Merci, Corentin Sélin. Je suis obligée de vous couper. On a bien compris l'argument que vous développiez. Merci d'avoir été avec nous, Corentin Sélin. À bientôt. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
En Martinique comme en métropole, la grogne monte chez les chefs d'entreprise et en particulier dans le secteur du tourisme.
Oui, un collectif a d'ailleurs été constitué. Il compterait déjà plus de 500 membres. Hier, il a tenu sa première assemblée générale aux Trois-Îlets. Reportage Jean-Baptiste Anatole.
La coupe est pleine dans le monde du tourisme aux Trois-Îlets. De couvre-feu en couvre-feu, de confinement en confinement, certaines sociétés sont au bord du gouffre aujourd'hui. Tous les commerçants regroupés au sein du collectif des professionnels en colère non essentiels appelle aujourd'hui au secours. Véronique Bidot-Deschaumes, la présidente de ce collectif.
C'est pas par le confinement et le blocage de tous les commerçants de Lille qu'on va pouvoir arrêter ce Covid. En plus, en se renseignant, on se rend compte que c'est surtout la dengue qui impacte la Martinique et c'est pas le Covid.
Vous avez bon espoir d'être entendu?
J'espère qu'on sera entendu. Parce que nous envisageons d'autres actions derrière.
Ce collectif n'a pas fini de se faire entendre. Une lettre a été adressée au préfet et aux autres instances du département. Commerçants, restaurateurs, hôteliers, loueurs de voitures et de bateaux, les métiers du tourisme ne veulent pas mourir les bras croisés.
Autre conséquence de la crise sanitaire qui s'éternise, l'obligation pour les passagers venant de Saint-Martin de présenter un test négatif désormais avant de prendre l'avion pour la Guadeloupe. Explication de la directrice de l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe, Valérie Denux.
Il faut comprendre que moi, j'ai fait cette demande à monsieur le préfet parce que, très clairement, bon, on connaît un peu l'origine de la deuxième vague sur notre territoire. Ce sont des clusters festifs, hein, qui se sont rendus à Saint-Martin. Et en fait, la différence entre les liaisons inter-îles, inter-françaises et Saint-Martin, c'est que Saint-Martin a une frontière ouverte avec Sainte-Martine. Et on avait signé cet été un accord, hein, pour gérer la situation avec Sainte-Martine, qui n'a pas été complètement mis en œuvre du côté de Sainte-Martine. Donc là, on travaille à nouveau un accord en essayant vraiment de verrouiller les choses. Mais étant donné la frontière ouverte, il y a lieu de le considérer un peu comme une porte d'entrée étrangère. Donc moi, j'ai demandé à monsieur le préfet à ce qu'on puisse mettre ce filtre supplémentaire en place.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain. Merci à vous, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 14h10, heure de Paris, 13h10, en temps universel. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.
RFI. C'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.